Comme je l'ai évoqué au début de cette Eucharistie, cette fête du Saint-Sacrement n'est pas une fête très ancienne si on regarde l'histoire des 2000 ans d'histoire du christianisme. Et c'est une fête qui est seulement vécue dans l'Église d'Occident. L'Église d'Orient n'a pas eu la même histoire et n'a pas eu les mêmes besoins. La question de la réalité de la présence du Seigneur dans l'Eucharistie ne s'est pas posée pour eux. Ils y croient dur comme fer. Mais eux, ils ne se sont pas questionnés de la même manière. Et alors qu'en Occident, eh bien, au milieu du Moyen-Âge, eh bien, il y a eu plusieurs contestations qui ont commencé à monter autour de cette présence. C'est vrai que nous, qui sommes très raisonnables, on se dit, mais l'Eucharistie, c'est bien. Mais le symbole suffit. Il suffit qu'on se rassemble, il suffit qu'on célèbre le Seigneur, il suffit que l'on croit qu'il est là, et c'est sans doute suffisant. Pourquoi faut-il aller si loin en affirmant, en attestant que dans le pain, la pauvreté du pain et du vin, eh bien, après que le prêtre ait prononcé les paroles du Seigneur, ceci est mon corps, ceci est mon sang, eh bien, pourquoi affirmer qu'il soit vraiment présent? Que finalement, quand nous communions, ce n'est pas du pain. L'apparence, certes, reste celle du pain. Mais quand nous communions, ce n'est pas celle du pain. Nous ne communions pas à du pain. Nous communions réellement au Seigneur présent, à Jésus-Christ, vivant, avec son corps, avec son âme, et aussi avec sa divinité, car elle est inséparable. L'apparence reste le pain, le vin, mais la réalité est changée. Et l'Église l'affirme avec foi, avec comme on dit dogmatiquement, hein, c'est-à-dire avec certitude, et l'affirme cette présence. Et on peut remarquer que facilement, eh bien, dans les premiers doutes qui viennent, eh bien, c'est à celui-ci. Oui, non, mais c'est trop, c'est pas nécessaire. Il aurait pu faire différemment, il peut faire un symbole aurait pu suffire, voilà. Mais en fait, si on regarde bien, à travers ce mystère de l'Eucharistie, nous contemplons un aspect de la personnalité de notre Dieu. Nous contemplons que notre Seigneur est un peu, on pourrait le qualifier de fou. D'ailleurs, saint Paul en parle. Il dit que le Seigneur que l'affirmation de notre foi est folie pour les païens et scandale pour les juifs, c'est-à-dire ce qui fait tomber. Et c'est vrai que notre foi, elle est ainsi. Et si on remet en cause la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie, eh bien, autant remettre en cause toute l'entièreté de notre foi. Pourquoi ? Parce que déjà, quand Dieu s'incarne, quand Dieu décide de venir au milieu de nous, de devenir un homme en envoyant son Fils, là déjà est la folie. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi Dieu fait-il ainsi ? Il peut nous sauver différemment, il peut nous rencontrer différemment, qu'il envoie simplement un grand prophète, comme d'autres religions le proclament. C'est suffisant. Mais non, Dieu nous surprend, vraiment. Acceptons de lui un peu de folie. Et il nous surprend, il nous invite à l'accueillir dans sa sagesse qui n'est pas la nôtre, certes. Et donc cette sagesse fait que Dieu décide de devenir un homme, de s'incarner, et ça déjà, c'est un premier scandale. C'est un premier source d'étonnement. Hein, c'est ce que nous fêtons à Noël. Mais ça ne suffit pas. Dieu s'incarnant, Dieu prenant chair en son Fils, il aurait pu se contenter simplement de nous donner un bel enseignement, quelques beaux exemples, quelques miracles, et s'arrêter là, et mourir dignement comme un sage qui, au terme d'une vie d'enseignement, en faisant des disciples, formant des disciples, eh bien, ce sage aurait comme un couronnement de son histoire terrestre à travers une mort paisible. Eh bien non, voilà que Dieu a voulu aussi, que il a voulu en prenant chair, eh bien, s'abaisser, être pris pour un malfaiteur, être condamné comme un malfaiteur. Il a voulu être identifié au péché, ce qui est complètement l'inverse de ce que Dieu est. Il a voulu vivre cela, prendre sur lui le péché, être identifié au péché pour mourir comme un malfaiteur, le supplice de la croix. Ce que des sectes, certains sages, refusent de la part de Jésus. Même certains qui ne croient pas que Jésus est Dieu refusent que le prophète finisse comme ça. Et bien voilà, encore une étape de la folie de Dieu. Il a voulu non seulement s'incarner, mais en plus prendre la dernière place, prendre notre péché, mourir à notre place, et puis vivre le supplice le plus terrible de l'époque, qui est celui de la croix, avec tout ce que nous connaissons dans le mystère de la passion du Seigneur, pour ensuite être enseveli, vraiment mourir, et puis bien sûr, et c'est le cœur de notre foi, ressuscité parce que finalement il est Dieu, il est venu pour nous sauver, pour nous prendre au plus bas, pour nous relever. Mais voilà que justement au moment où il vivait, il a choisi de s'abaisser alors qu'il aurait pu faire autrement, il pouvait nous sauver autrement. Il n'avait pas besoin, Dieu pouvait nous sauver sans la croix, évidemment. Et bien alors qu'il a choisi cela, au moment où il va vivre cela, où il va prendre cette dernière place, et bien à ce moment-là, il va aussi à ce moment-là, instituer l'Église et les sacrements. L'Église, déjà. Regardez le groupe des 12. C'est pas sérieux. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Enfin, pas tout à fait, mais ils sont pas sérieux. En plus, Jésus s'est même trompé parce qu'il a pris Judas. Regardez comment il a fait. Comment cette sagesse de Dieu s'exprime. Étonnante, incompréhensible. Mais l'Église ne devrait pas être comme ça. Elle devrait être parfaite, avec des gens parfaits que vous êtes. Je ne dis pas moi, hein. Non. Nous sommes, nous le savons, des imparfaits. Nous sommes des pécheurs sauvés. Nous sommes des gens qui menons notre vie de notre mieux, mais souvent c'est pas mieux, c'est pas beaucoup mieux. Voilà. Non, voilà, la sagesse de Dieu s'exprime de façon étonnante. Les ministres de l'Église, les apôtres, ses successeurs, les évêques ne sont pas malheureusement des gens parfaits qui nous rassureraient. Non, le Seigneur, la folie de Dieu a voulu que ce soit ainsi, qu'il travaille, que l'Église, qu'il fonde son Église, qu'il traversera l'histoire, 2000 ans d'histoire déjà. Et l'Église est toujours là. On peut toujours dire qu'elle est en train de mourir, elle est quand même là depuis 2000 ans, il n'y a aucune institution qui a vécu 2000 ans. Elle est toujours là et structurée, qui plus est. Ce n'est pas un mouvement spirituel New Age, c'est une réalité très concrète, très organisée. Et donc, elle est là, toujours, traversant l'histoire, à travers des hommes pécheurs, les pasteurs en premier lieu, mais pas uniquement. Je pense ne pas m'avancer en disant que les fidèles chrétiens baptisés ne sont pas aussi des gens tout à fait parfaits. Et donc, malgré tout cela, elle traverse l'histoire parce que l'Esprit Saint la soutient, Dieu la soutient, et c'est la sagesse de Dieu qui s'exprime ainsi. Et donc, il a fondé son Église, de fait, c'est pas comme ça que nous aurions fait nous qui sommes sages. On aurait organisé les choses un peu différemment. Et puis, il institue les sacrements, et parmi eux, un sacrement étonnant, qui est celui de l'Eucharistie, juste à la veille de sa passion. Il prend du pain, il prend du vin, il dit « Ceci est mon corps, livré pour vous, faites cela en mémoire de moi. Ceci est mon sang, versé pour vous. » Et là encore, les paroles utilisées par Jésus, les paroles traduites en grec ensuite qui nous ont été transmises en grec, sont des paroles qui ne laissent pas de doute. Quand Jésus dit « Ceci est mon corps », c'est pas « Ceci représente mon corps ». Le « est » « Ceci est mon corps » est une réalité physique, réelle. Et là encore, comme je le disais tout à l'heure au début de cette homélie, eh bien là aussi, c'est pas, on aurait fait différemment. Et d'ailleurs, certains sont tentés, certains courants spirituels chrétiens sont tentés de dire « Ben non, ça suffit, un bon symbole suffit très bien, on peut se débrouiller avec. » Mais non, il n'a pas voulu cela. Que ce soit l'Église d'Orient orthodoxe ou bien l'Église d'Occident catholique, les deux ont gardé ce trésor. L'Église d'Orient en développant une liturgie très très eschatologique, très développée, très riche, étonnante, de générosité, où ils y passent beaucoup de temps, les chrétiens, les fidèles chrétiens et le clergé y passent beaucoup de temps dans la liturgie, où ils développent, ils dépensent beaucoup d'argent. C'est quelque chose de très surprenant quand vous allez en Orient, c'est de voir que même dans des régions très pauvres, ils ont des églises extraordinaires. Comment ont-ils fait ? Il a bien fallu que l'argent vienne de quelque part. Alors, je vais faire de mauvais humour. Ce n'est pas les pays occidentaux chrétiens qui ont envoyé de l'argent. Hein. Enfin, même si aujourd'hui, avec les persécutions, nous envoyons de l'argent, nous chrétiens, mais ce n'est pas cela qui ont permis de construire des églises, c'est eux. Ils se sont sacrifiés pour ça, comme nos aïeux l'ont fait. Et donc, ils ont conservé ainsi le mystère eucharistique, la divine liturgie. Et nous, en Occident, eh bien, nous avons une autre histoire. Et il y a eu des certains nombres de penseurs qui ont cru bon de remettre en cause à plusieurs reprises la réalité de ce mystère eucharistique. Et en particulier, pas uniquement, mais en particulier, la présence réelle, puisque c'est la fête de la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui. Et donc là, l'Église a dû à plusieurs reprises réaffirmer cette réalité de la présence que je vous disais à l'instant, hein, c'est très simple, notre foi, c'est à la fois folie, mais c'est simple. Le pain n'est qu'apparence, parce que le Seigneur veut faire appel à notre foi, non pas parce que c'est pas vrai, c'est parce qu'il veut que nous fassions l'acte de foi pour aller vers l'Eucharistie, et non pas que ce soit facile. Et aussi, saint Thomas, il développe aussi une autre idée qui est évidente aussi, c'est que ce serait très désagréable de manger de la chair. La vraie chair, évidemment. Hein, donc, on garde le signe, la dimension sacramentelle, c'est-à-dire qu'il faut faire l'extérieur reste la même, les apparences restent les mêmes. Mais la réalité est différente, c'est vraiment Jésus vivant, avec son corps, son âme, l'homme, mais aussi sa divinité, parce qu'il est divin. Et donc, le corps, le pain consacré, est vraiment notre Dieu. Nous pouvons adorer ce morceau de pain consacré. Et ainsi, donc à travers de nombreux débats, l'Église a réaffirmé les choses. Et puis au même moment, comme ça arrive souvent dans l'histoire de l'Église, au même moment, le Seigneur se manifestait auprès d'une religieuse en Belgique. Il se manifestait en demandant que l'on institue une fête du Saint-Sacrement. Il se trouve que l'évêque qui était du diocèse de cette sœur devient ensuite pape. Bizarre, ça c'est la providence, ça s'appelle. Devient pape. Et donc cet évêque, devenu pape, eh bien, il va instituer pour l'Église universelle cette fête. En l'an 1264, il va instituer cette fête de l'Eucharistie pour que nous ne perdions pas la foi dans l'Eucharistie et dans la folie de Dieu, que nous accueillions cette sagesse divine qui n'est pas la nôtre. Et donc, ils instituent cette fête. Et puis à l'époque, il y avait un grand théologien qui était très renommé et qui reste encore un des plus grands théologiens de l'histoire, voire le plus grand, saint Thomas d'Aquin, contemporain de cette époque. Et donc, tout naturellement, le Saint-Père va se tourner vers saint Thomas et va lui dire « Eh bien, écrivez-moi, rédigez-moi la messe du Saint-Sacrement. » Et toute la messe d'aujourd'hui, les oraisons, la préface, toutes les prières spécifiques et surtout la séquence que nous avons un tout petit peu chantée tout à l'heure, mais qui est en fait très longue. Alors on n'ose pas la faire parce que nous ne sommes pas des orientaux chrétiens, donc on n'aime pas que ça dure trop longtemps nos messes, donc on ne l'a pas fait. Mais je vous invite à la lire tranquillement dans la prière, cette séquence. Vous trouverez aisément sur Internet ou dans les petits fascicules des lectures des messes, cette séquence qui est rédigée par saint Thomas d'Aquin, c'est un véritable synthèse théologique de la foi en l'Eucharistie, de la méditer, de l'accueillir dans la foi. Donc elle est assez longue, et je vous invite vraiment à la méditer, à la prier pour faire grandir notre foi, votre foi, et ainsi avancer dans cette foi dans l'Eucharistie. Et puis au même moment, eh bien, a commencé donc cette fête du Saint-Sacrement. Les processions du Saint-Sacrement sont arrivées assez vite derrière. Hein, on a processionné avec Jésus, qu'on a avec le pain consacré et qu'on a honoré comme notre Dieu au milieu des cités pour montrer la présence du Seigneur à nos côtés. Et puis l'adoration eucharistique s'est aussi développée dans les années qui ont suivi. Et donc nous avons la joie sur la paroisse de faire l'adoration perpétuelle et nous honorons ce pain dans l'Eucharistie comme étant vraiment Dieu lui-même, parce que c'est Dieu lui-même. Et je me dis souvent, moi prêtre, que c'est pas normal que je sois si indifférent à sa présence, que je m'y habitue si facilement. Je pense que c'est pas votre cas, mais je trouve ça triste. Voilà. Demandons au Seigneur de l'aimer vraiment, dans tout ce qu'il nous révèle, dans tout ce qu'il nous donne, de l'aimer vraiment dans son Eucharistie qui résume tout le cœur de notre foi, toute la folie de l'amour de Dieu, toute la sagesse de Dieu. Demandons de l'aimer, de l'honorer vraiment. Amen.